La religion cherche la vérité. Mais la vérité, elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas dans les religions. La vérité, c'est une personne. Hein? C'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité. Le véritable, c'est Jésus, le Christ. Pour ceux qui ne savent pas, le Christ, ça veut dire Messie. Celui qui est envoyé, celui qui est mis à part pour une œuvre. On va attendre un peu dans le témoignage de Gisèle, Madame Gisèle Laroche, matin. C'est rare qu'on ait le témoignage d'une grand-mère. Wow! grand moment, ça doit être un grand moment gâteau, là, tu sais, parce qu'elle est éducatrice aussi. Éducatrice en garderie et elle aime beaucoup les enfants. Puis je vais l'inviter, là, sans plus tarder, à venir nous donner son témoignage. Je vais lui poser une question juste avant qu'elle arrive, qu'elle prenne place. Es-tu sauvée? Négatif ou affirmatif?
Oui.
Bon! Explique-nous.
Durant mon témoignage, cette question m'a été posée. Et on va y arriver. Pour moi, c'est vraiment un privilège de venir ce matin et je vous remercie de votre présence au milieu de nous et je sens que Jésus est présent et puis ça me rassure. Alors, c'est vraiment tout un honneur pour moi de témoigner de la grâce de Dieu. Et vous avez devant vous une pécheresse sauvée par grâce. Je m'appelle Gisèle Dubé-Laroche, puis je suis née dans la maison familiale à Saint-Marcellin. C'est un petit village en arrière de Rimouski, et dans ma famille, il y a 13 enfants, et je suis la cinquième de la famille. Alors, dans ce temps-là, ma mère accouchait à la maison, et il y avait l'infirmière au village. Il y avait aussi une sage-femme qui se disait sage-femme, mais qui savait faire bien les choses. Et j'ai grandi à Saint-Marcellin et puis nous autres, on était dans le centre du village, donc à côté de l'église, pas loin de l'école, entouré là de tout ce qui était accessible là, assez vitement. Alors j'allais à la messe, moi, parce que mes quatre grands frères, là, ils servaient. Ça fait que nous autres, ma petite sœur et moi, on allait chanter. Puis, on était là le dimanche matin, puis on était là toute la semaine aussi, juste avant de partir à l'école. Alors, moi, c'était comme dans mon habitude d'aller à la messe. Puis, à un moment donné, moi, je comptais sur l'état de grâce. Je comptais, parce que le prêtre, il disait, « Si tu meurs en état de grâce, ben tu vas aller au ciel directement. » Mais c'était difficile à gérer l'état de grâce, hein, parce que là, tu vas à la confesse, tu vas communier, ah, t'es bien. Mais là, à la minute que tu rentres dans la maison, là, on était 15 dans la maison, à se piler sur les pieds, même si c'était une grande maison. Et ça partait, hein, l'état de grâce, tu chicanais avec ton frère, oh non, ah, ça va aller au lendemain. Puis c'était difficile à gérer, puis j'ai commencé à être dans l'incertitude. Parce que là, du moment que j'étais, du moment que j'étais pas en état de grâce, ben fallait que j'attende, là. Puis quand j'allais à l'école, est-ce que vous vous souvenez du jeu de la marelle? Alors, on avait notre petite roche, là, puis on lançait ça dans les carrés, puis on arrivait jusqu'au ciel. Justement. Et puis là, hein, quand j'étais rendue dans la case au ciel, j'ai dit, bon, ça y est, je suis rendue au ciel, j'ai gagné. Et ce jeu-là nous représentait des efforts pour aller au ciel. Puis c'était dans ma pensée. Et le curé nous avait rendu visite dans la classe parce qu'on se préparait pour la communion, la petite communion, là. Et puis moi, j'avais levé la main parce qu'il demandait, voir pour ceux qui avaient des questions là en rapport à la communion. Et puis moi, j'avais levé la main puis j'y avais demandé, est-ce que ça existe un chemin pour aller au ciel? Ah, il dit, ma petite fille, il dit, Ça, il dit, Dieu, il va décider, après la mort, il va décider là, si tu es assez bonne pour aller au ciel. Et puis, on peut pas savoir ça sur la terre. Là. On peut pas être sûr qu'après la mort, chaque personne qui vit sur la terre va aller au ciel. Il dit, probablement que tu vas aller au purgatoire. Mais j'ai senti que il savait pas. Et pourtant, on jouait dans les jeux, puis qu'on arrivait au ciel. Puis, à ce moment-là, je vivais ma vie d'écolière. Hein. Mon père allait bûcher dans le bois, puis ma mère était couturière à la maison. Puis l'été, ben, on passait nos étés à ramasser des fraises, et puis on les vendait, puis ça nous faisait de l'argent pour aller en camping. Fait que mon père, il tassait tout le monde dans le gros station. Puis on partait avec la tente roulotte en arrière, puis on allait camper. Et puis, il est arrivé que j'avais 12 ans, puis on s'était installé au bord d'une rivière pour faire un pique-nique. Puis c'était le dimanche, puis mes parents en profitaient pour aller visiter la parenté. Puis ils disaient aux plus vieux, « Vous allez surveiller les plus jeunes. » Puis nous autres, on jouait dans l'eau, on lançait des cailloux dans l'eau. Et puis, à un moment donné, je me revire de bord, puis je vois ma petite sœur enfilée dans la rivière. Puis moi, j'ai rien pensé. Je me suis dit, je suis responsable, là. Faut que j'aille la chercher. J'enfile dans la rivière avec elle. Je l'ai par-dessus moi, elle me serre le cou, là. Puis je me suis rendu compte qu'on était la tête dans le fond de l'eau, puis les pieds par en haut, puis on tournait. On était comme dans une fosse dans la rivière, un tourbillon. J'essayais de remonter à la surface, mais je me suis rendu compte que je savais pas nager, moi, là. Puis je me débattais dans l'eau. Puis j'ai commencé à avaler de l'eau, puis avale de l'eau. Puis à chaque respiration, j'avalais de l'eau. Je trouvais que ça donnait rien, là. Puis j'ai pensé à Dieu, j'ai dit, « Si, Dieu, tu veux que je meure comme ça, ben que ce soit ta volonté. » Mais par après, je lui ai demandé, j'ai dit, « Sauve-moi parce que je tiens vraiment à la vie. » J'ai arrêté de bouger parce que je pouvais pas rien faire d'autre que de me laisser là entre ses mains. Puis en arrêtant de bouger, ben, je suis remontée à la surface. Puis mes quatre frères qui m'ont vu des pieds là, qui flottaient, là, ils m'ont tiré. Et puis vraiment, là, on était vraiment gonflés là, d'eau, là, l'estomac quand il est plein. Là. Et puis ma petite soeur, pareil. Et puis on était comme bleus. Là. Et puis tout ça... Là, mes frères, ils ont dit, là, il faut que tu ailles te changer, puis il faut que tu te caches, là, parce que là, les parents vont arriver, puis il faut rien dire. Puis c'est seulement au 40e anniversaire de mes parents qu'on a annoncé qu'on avait manqué de se noyer. Ils ont dit, là, ma mère a dit, ah, oh, vous autres, là. Mais vraiment, là, quand tu penses que tu vas mourir, tu te sens vraiment abandonné tout seul dans ça. Puis c'est pour ça que j'ai continué à chercher la vérité. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, je venais de terminer mon secondaire 5. Et puis, c'était en juin. Et rendu, c'était la nuit. Et puis, j'ai terminé mon secondaire. C'est pas grave. Mais dans la nuit, je me suis réveillée, puis je disais à ma sœur, « Ça sent... Sens-tu quelque chose, toi? » Puis elle avait le nez bouché, puis elle avait la grippe. Puis je me suis levée, puis j'ai reçu vraiment la porte de la chambre dans le front. J'avais une grosse poque, là. Le lendemain, quand je me suis vue, là, j'avais vraiment le front enflé. Mais c'était le... Ça sentait la fumée dans la maison, puis je voyais rien, puis c'était le soir, c'était le début de la nuit, vers 1h du matin. Puis là, je me suis mis un linge sur le nez parce que là, je voyais, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas d'électricité, rien. J'ai commencé à crier, là. Le feu est pris dans la maison, puis il sortait de la maison, puis 3-4 fois, j'osais pas monter dans l'escalier parce que on sentait la chaleur sous l'escalier. Ça fait que moi, je suis sortie. Et puis là, on faisait sortir, j'étais avec mon autre sœur, puis on les faisait sortir de la maison. Mon père aussi, il était endormi, on l'a sorti de la maison. Et puis, quand on était rendu dehors, on riait, on criait, on pleurait. Puis, à un moment donné, c'était pas long, une maison en bois, puis avec de la ribe dans le grenier, ça a parti comme un feu de camp, là, un immense feu de camp, là. Ça a brûlé vite. Assez vite que les pompiers n'ont pas eu le temps de se rendre. Tout était perdu, tout était... on avait tout perdu, mais on se tenait en rond, toute la famille. On riait, puis on s'est dit, au moins, on est vivant. Puis c'est ça, j'ai réalisé l'importance de la vie. C'est tout était... Le matériel était brûlé, c'était facile à remplacer du matériel. Mais la vie, là... Petite sœur qui est morte, là, non, tu ne remplaces pas ça. Puis on se recomptait. Tu sais, on disait, bon, combien qu'on est? Tout le monde, on se recomptait, là, il en manque-tu une? Puis vraiment, le Seigneur nous a protégés. Puis je me suis rendu compte que on avait manqué de passer par le feu, mais passer aussi par la mort. Et quand tu penses à ça, tu dis, hey, la vie, là, ça tient un fil. Même si tu es en bonne santé, tu peux sortir d'ici, là, puis un accident, bon, c'est fini. Puis j'ai continué quand même à chercher encore le chemin pour aller vers le ciel. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait aussi... se tenir les coudes dans la famille, là. Puis, on est déménagé en ville, puis on n'avait pas grand-chose à déménager. On s'est rendu dans un HLM, puis là, on recevait des choses gratuitement. Tu sais, le journal de la semaine, ouais, on recevait ça gratuitement. Puis moi, je lisais ça. Puis on cherchait des activités gratuites, hein, aller marcher autour de la rue, puis à se promener partout, là. Puis ma mère a me fait remarquer qu'il y a un film. Il y a un film gratuit au cégep. Puis moi, j'avais commencé ma première année de cégep. Puis j'étais en sciences humaines. Puis vraiment, les gens m'intéressaient, puis la science aussi. Puis c'était marqué Billy Graham. Mais il y avait un autre titre, c'était les sermons de la science qui accompagnaient ça. Là, c'était tout comme une soirée d'évangélisation, mais moi, je le voyais pas de même. Là. Je le voyais comme une sortie, puis on allait voir un film. Puis rendu au cégep, on regarde le film, puis après le film, il y a un petit mot d'évangile qui est prononcé par quelqu'un. J'ai rien compris de qu'est-ce qu'il a dit, mais le monsieur parlait d'un chemin pour aller au ciel. Ça fait qu'il disait, ceux qui ont des questions, ont été rendus vers la fin de la soirée, vous pouvez lever la main, puis moi, je vais lever la main juste un peu pour que personne me regarde, là. Puis là, il dit, vous pouvez aller dans l'autre local à côté. Ça fait que tout le monde se lève. Moi, je suis la file. Il y a quelqu'un qui me tire l'épaule puis qui m'envoie dans un local. Puis, c'était des salles de classe. Ça fait que moi, je me sentais à l'aise là, dans tout ça. Là. Je voyais qu'il y avait plein de monde. Hein. Il y en avait des jeunes, des plus vieux. Puis, il y en avait des travailleurs. Il y avait des mécaniciens. Puis, il y en avait plusieurs qui parlaient de Dieu. Puis là, je pensais que c'était tout du monde qui avait étudié en théologie. Puis là, il y a un monsieur, il dit, moi, je répare des freins. Puis il y a un autre qui a dit, moi, je suis secrétaire. J'ai dit, ah, vraiment, là, moi, j'avais vraiment j'aimais les entendre parler. Puis celui qui était en avant, bien, il avait posé la question, « Si vous avez des questions, là, c'est le temps de le dire. » Puis moi, j'ai levé ma main, là. Là, vraiment, là, on était dans une classe fermée. Puis j'ai dit, « Est-ce qu'il existe un chemin pour aller au ciel? » Il dit, il n'avait pas l'air d'être embêté, lui. Il dit, « Ben oui, il dit, je vais tout te raconter ça tantôt. » Il dit, « Puis il y en a-tu d'autres qui ont des questions? » Puis là, il y avait plein de questions qui se posaient, mais là, j'attendais vraiment ma réponse. Puis, il dit, « Oui, il en existe un bel et bien un chemin pour aller au ciel. » Il commençait à ouvrir un livre noir, une couverture noire. Puis c'était la première fois, je pense, que je voyais une Bible. Là. C'est... J'avais vu le gros livre dans l'église, qui était très épais, puis tout ça. Mais une Bible là, complète, là, je n'avais jamais vu. Puis il tourne ça facilement, le monsieur. Puis dans Jean 14, 6, il trouve la page. Hein. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ah, Jésus est le chemin. OK. Puis... là, à un moment donné, il a commencé à faire des dessins au tableau. Et puis là, ça me servait, moi, parce que moi, je suis très visuelle. Ça fait que je me suis avancée un petit peu, puis j'étais très attentive à ce qu'il disait le monsieur. Puis à un moment donné, le monsieur se présente. Il dit, moi, je suis la personne qui écrit dans le journal. Ah, parce que dans le journal, il écrivait une chronique. Ça s'appelait « Foyer d'orientation biblique ». Ça fait que là-dedans, il racontait des choses de Dieu, que c'était très facile à lire. Puis moi, quand on avait reçu le journal à la maison, rendu à Rimouski, je lisais ça. Hein? J'ai dit, quelle coïncidence! Puis à chaque chronique qu'il écrivait dans le journal, il y avait une question à la fin qui nous laissait... sur notre appétit. Je vais vous répondre dans la prochaine chronique. Puis là, il fallait que j'attende une semaine pour lire la fameuse réponse qu'il allait écrire. Fait que je le reconnais. J'ai dit, ah, c'est lui. C'est lui qui écrit ça. Et puis, à la fin, lui, il offrait toujours un évangile de Jean. Puis moi... Avant que je le rencontre, j'avais écrit, puis j'avais reçu l'évangile de Jean chez nous. J'étais tellement déçue parce que c'était petit, hein, c'est tout petit. Puis moi, je m'attendais à avoir le gros livre dans l'église là que j'avais vu, parce que quand le prêtre arrivait là, il dit évangile selon Matthieu, puis là il tournait les grandes pages puis il lisait. Mais c'était pas ça que j'avais. J'avais l'évangile de Jean, mais je l'ai lu pareil. Puis ça m'avait beaucoup intrigué le premier verset de la première page qui parlait de la lumière, tout ça. Puis là, je le reconnais, puis il commence à dessiner au tableau. Et il dessine un rond. Puis là, il écrit « Terre » dedans. Puis là, il dit « Vous êtes tous, on est tous sur la terre ». Puis là, il dessine un autre rond à côté, puis il marque « ciel ». Puis entre les deux, il n'y avait rien. Ça fait qu'il dit ça, il dit « c'est l'abîme, infranchissable ». Puis plus bas, beaucoup plus bas, il avait marqué un grand mot, c'était « enfer ». Il dit « dans le fond du ravin, là, il dit, imaginez-vous que c'est l'enfer ». Moi, j'avais hâte de voir où est-ce qu'il allait mettre le purgatoire. Parce que moi, dans mon esprit, mourir, ben, tout de suite, j'avais toujours su que j'allais au purgatoire. Ça fait que j'attendais. Il n'y a rien marqué. Ça fait qu'il dit, si tu essaies d'aller au ciel, puis là, il faisait des traits, il dit, tu peux pas te rendre au ciel avec tes propres moyens. Puis... À un moment donné, il en met un grand trait qui va jusqu'au ciel. Puis il écrit dessus Jésus. Moi, j'étais... Là, il nous avait fait approcher tout le monde. Puis moi, j'étais comme en avant du tableau, là. J'étais comme proche du tableau, là. Puis il dit, « Faut que tu prennes le chemin de Jésus pour aller au ciel. » Puis il dit, « Tu peux être sauvé. » Puis là, il avait fait un grand trait vertical pour signifier que c'était une croix. Puis là, il a vraiment là dit, Jésus est mort pour tes péchés. Il m'a regardé. Jésus est vraiment mort pour toi. Puis là, là, moi, j'étais figée. Je le regardais. J'ai dit, il dit, si tu acceptes le Seigneur ce soir, là, tu vas être sauvé. Puis, tu peux aller au ciel. J'ai dit, hein, c'est possible. Là, là, j'étais figée, mais là, je commençais à avoir des larmes. J'étais vraiment touchée dans mon cœur. J'ai dit, hein, c'est ça, le chemin pour aller au ciel, la clé, là. Il dit, là, il y a eu un petit déclic, mais moi, je savais pas que c'était l'œuvre du Saint-Esprit, là. Il y a eu un déclic qui disait, qui se faisait, là. Il dit, il faut que tu prennes ta décision ce soir, là. Il me parlait comme, il parlait au groupe, mais j'avais l'impression qu'il me parlait à moi, là. Faut que tu prennes ta décision ce soir, parce que en sortant, tu sais pas l'avenir. Puis là, j'ai dit, OK, tu sais, j'ai dit, je vais prendre la décision ce soir. Mais, il y a comme un espoir qui s'est ouvert, tu sais, dans mon esprit, là. J'ai dit, ah, ça se peut aller au ciel, puis on peut le savoir, là, tout de suite, là. Ça fait qu'à la fin, quand il a expliqué que Jésus était le chemin, puis qu'il était mort pour nos péchés, là, j'ai dit, ceux qui veulent faire la prière de la repentance, bien, vous pouvez le faire. Moi, j'ai fait la prière de repentance. J'ai demandé pardon pour mes péchés, puis ça, je savais que j'étais pas assez bonne pour aller au ciel. Puis là, j'ai invité Jésus d'entrer dans mon cœur, puis ça, j'avais jamais fait ça. J'avais l'hostie dans mon cœur, tu sais, je le mangeais à chaque jour, puis ça partait, ça restait jamais, mais là, il dit, ouvre la porte de ton cœur, puis laisse-le entrer. Puis là, j'avais dit, il dit oui. Moi, j'ai dit oui. Ça fait que ça restait de même. Puis à la fin, on est toutes parties, là. Puis je suis rendue chez nous. Puis rendue chez nous, ma mère a dit, mais on t'attendait où t'étais passée, puis t'arrives donc bien tard. Puis moi, j'ai rien dit parce que j'avais pas vraiment, je savais pas comment l'annoncer, puis qu'est-ce qui s'était passé. Puis le lendemain, je sentais rien, tu sais, j'avais l'impression que j'avais fait ça pour rien. Puis là, je descendais de la rue Rouleau, parce qu'on m'avait donné une invitation pour aller à l'Assemblée, à une petite église, puis il y avait toute une adresse pour aller là. Puis j'ai dit, en tout cas, je vais me rendre là. Je descends la rue Rouleau à Rimouski, puis ça descend assez à pic. J'ai dit, OK, je vais recommencer ça. Seigneur, oui, je vais te suivre. OK, là, je suis prête. Puis je descends, mais tu sais, je me rends pas compte que ce que je dis, que j'accepte vraiment de suivre Jésus puis de changer de vie. Puis là, rendu à l'église là-bas, tu sais, il y avait des personnes qui te recevaient. Puis là, quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que t'es sauvée? Il me l'a pas demandé tout de suite, il me l'a demandé parce qu'on prenait la pause café entre les deux parties. J'ai dit, c'est bizarre ici, tu sais. T'entends parler de Dieu, puis après ça, tu vas prendre un café. Moi, ben, tu sais, quand tu vas au cégep, t'en prends du café, t'es étudiante, t'en prends du café, c'est bien le fun. J'avais bien aimé ça, prendre un café, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui dit, hey, es-tu sauvé? Puis là, j'ai dit oui, mais... Là, quand j'ai dit oui, là... Hein? J'ai dit, ben oui, je suis sauvée, tu sais. Là, j'ai réalisé que j'étais sauvée. Ça me fait penser à quand tu vas, tu te maries. Quand tu te maries, là, si tu dis pas oui, t'es pas mariée. Ben, moi, en tout cas, là, j'ai dit, ah, je suis assez contente, j'ai dit oui à Jésus, puis là, je suis sauvée. Puis, le lundi, c'est le lendemain, j'allais à l'école. Et puis, je prenais un cours de dactylo pour mieux écrire mes travaux. Puis là, le professeur n'était pas vraiment gêné, lui. Il me pose la question, il dit, « Hey, t'as l'air bizarre, toi. » Tu sais, les professeurs du cégep, on se parle comme ça, hein. Puis il dit, « Hey, il dit, pour moi, t'es en amour. » Parce que là, toujours un grand sourire, puis je faisais des folies, tu sais. Fait que j'ai dit oui, j'ai dit, J'ai tombé en amour avec Jésus. Puis là, toute la classe a parti à rire. Puis là, j'ai dit, ah, j'avais là une réaction, là. J'ai dit oui à Jésus, puis je suis tombée en amour avec. Ça fait que, il y avait une fille après ça qui est venue après la classe. Elle dit, hey, elle dit, toi, là, elle dit, t'es-tu allée à une retraite pendant la fin de semaine? J'ai dit non. J'ai dit, non, je t'allais à ta... Puis là, j'y ai montré l'annonce. Ah, elle dit, non, elle dit ça, c'est un groupe, là, en volantier, faut pas là-dedans. Mais moi, j'étais tellement contente, j'en ai parlé, puis vraiment, là, elle est venue visiter quelque temps, mais je l'ai perdue de vue par après. Mais vraiment, là, c'est là que j'ai accepté le Seigneur, c'est devant le tableau de la classe. Puis par après, bien, j'ai grandi dans cette église-là, puis j'avais pas de Bible, puis je cherchais à avoir une Bible. Puis, j'étais surprise de ça. Quand j'ai demandé une Bible, acheté une Bible, tout de suite, le pasteur m'en a donné une. Il dit, je te la donne. Mais il dit, elle coûte juste 7,50 $. Mais il dit, si t'as de l'argent, puis si t'as pas d'argent, là, je te la donne. Ça fait que j'étais tellement contente d'avoir une Bible, là. Je suis rendue chez nous. Je me suis enfermée dans ma chambre parce que je restais encore à la maison. Puis, j'avais tellement hâte d'aller lire la Bible. Là, je regardais un petit peu la télé, puis là, je montais dans ma chambre, je m'enfermais, puis là, je lisais la Bible. Puis mes parents, ils regardaient, ils ont dit, pour moi, elle est virée, là. Elle est virée sa tête, ça a tombé sa tête. Puis moi, je chantais le Seigneur dans la maison, puis ils m'ont arrêté de chanter le Seigneur. Ils ont dit, c'est assez, là, on veut plus n'entendre parler. Mais pourtant, c'était vraiment, là, ça avait commencé avec ma mère, tout ça, puis... Vraiment, là, j'ai été obligée de partir de la maison parce que je parlais trop de Dieu dans la maison. Et par la suite, ben j'ai rencontré un jeune homme, un beau jeune homme, mince et grand. Il s'appelait Guy Laroche. Mais moi, Guy Laroche, là, dans ma tête, là, ça sonnait bien. J'ai dit, hey, Laroche. C'est comme le rocher, tu sais, là, parce que j'avais lu dans la Bible que Jésus est le rocher. Ah, j'ai dit à Guy, j'ai dit, hey, ça serait le fun, hein, un beau nom de famille, puis tout ça, puis commencer à sortir ensemble, puis là, ça n'a pas été long, le pasteur nous a dit, vous autres, là, je vais vous marier. Puis ça n'a pas été long par après. Et puis, ça faisait pas longtemps qu'il était sauvé non plus, ça fait qu'on s'est mariés chrétiennement. Puis par la suite, on a eu une belle fille, une belle petite fille, Marie-Hélène. Elle aussi, elle a accepté le Seigneur à 5 ans. Puis, on a deux petites filles, deux belles petites filles, là, Miranda et Liana, et eux autres aussi, ils sont enseignés dans la parole. Mais ils sont tout petites, mais ils ont leur Bible. Et puis, c'est vraiment une grâce d'être sauvée, hein. C'est vraiment, c'est pas parce que je suis meilleure que vous autres, là. Non, non, non. C'est je m'en attendais pas d'être sauvée ce soir-là, moi. Je savais même pas c'était quoi être sauvée. C'est, tu sais, être sauvée, là, c'est décrocher un petit peu de ce qu'on est, de nos affaires, de ce qu'on voudrait faire pour aller au ciel. Puis ça doit s'abandonner dans les mains de Dieu, s'abandonner dans les mains de Jésus, parce que c'est lui notre sauveur. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. Puis il a versé son sang pour mes péchés. Puis moi, quand je péchais, parce que j'étais encore une pécheresse, là, même si je suis sauvée, j'étais pognée avec ça, moi. Puis j'étais allée voir le pasteur. J'ai dit, qu'est-ce que je fais si je pêche, là? Est-ce que l'état de grâce est parti? Ça fait qu'il dit, non, non, il dit, tu confesses ton péché à la personne, puis tu la confesses aussi à Jésus. Puis c'est Jésus qui te donne la paix. C'est Jésus qui efface ton péché. C'est lui seul qui te restaure, qui peut te demander de revenir à lui, au pied de la croix. Et en gros, c'est tout. C'est mon témoignage. Et je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée. Puis je veux rendre gloire à Dieu pour m'avoir donné la capacité de témoigner de lui ce matin. Je lui rends gloire.
Ouais, grand moment, t'as touché mon cœur. Je me sentais comme un petit enfant qui attendait l'Évangile pour la première fois, l'amour de Jésus pour tout. On dit pas un petit enfant qu'il est perdu, mais dans ton témoignage, toi, tu savais que tu étais perdu. Puis un petit enfant, on lui dit plutôt qu'il est séparé de Dieu. On lui dit plutôt qu'il ne pourra pas aller dans la présence de Dieu s'il n'est pas sauvé. Vous savez, vous rappelez-vous la question du vieux fermier tantôt? Hein? Excellence, êtes-vous sauvé? Mais moi, je vous pose cette question ce matin. Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous être sauvé? Peut-être que dans le fond de votre cœur, vous vous dites, vous êtes comme le gardien de prison. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? On a vu, premièrement, la Bible dit dans Romains, on ira pas voir les textes, mais que tous ont péché puis tous sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas aller dans la présence de Dieu si on n'a pas passé par ce chemin-là. Puis j'aimerais qu'on lise un texte, par exemple, ensemble. Jean 3, montrez-le à ceux qui sont à côté de vous, qui n'ont pas de Bible. Jean 3, verset 16. Souvent, on entend le mot « sauvé ». Mais sauvé de quoi? Pourquoi tu veux que je sois sauvé? Ben, si t'as besoin d'être sauvé, c'est parce que t'es perdu. C'est le message de l'Évangile, c'est triste, mais c'est ça. Parce que t'es perdu, t'as besoin d'un sauveur, t'as besoin d'être sauvé. On va lire Jean 3, versets 16 à 18. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi, Roch, Jean, Gisèle, Déborah, n'importe qui, a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Périr, c'est quoi périr? Périr, c'est l'enfer. Périr, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Périr, c'est les ténèbres pour l'éternité. N'ayons pas peur des mots, là. Il n'y en a pas de purgatoire. C'est soit le ciel, soit l'enfer. C'est tout simplement ça. Mais regardez l'amour de Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu ne veut pas que son Fils, il n'est pas venu ici pour nous juger, là, pour dire « Ah, toi, tu t'en vas à l'enfer, tu mérites l'enfer, tu vas aller en enfer, etc., etc. » Non, non, il ne l'a pas envoyé pour ça. Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit, regardez le mot là, sauvé par lui. Sauvé par Jésus-Christ. Le seul moyen d'aller au ciel, c'est par Jésus. Si tu n'as pas Jésus, si tu connais pas Jésus, si tu n'as jamais regardé la personne de Jésus, eh bien tu ne seras jamais sauvé. Puis regardez celui qui, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est merveilleux. Tu mets ta confiance en Jésus, tu places ta confiance en Jésus, t'es point jugé. Il n'y a pas de jugement pour toi. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Mais celui qui ne croit pas, par exemple, si un matin t'es ici, là, pis tu crois pas, là, eh bien, t'es déjà jugé. T'es déjà jugé parce que tu n'as pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans ce monde, Jésus-Christ qui est la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils choisissent volontairement les ténèbres. Eux-mêmes choisissent les ténèbres. Imaginez-vous, là, ils choisissent les ténèbres à partir de là, l'instant, si vous attendez puis vous dites, je ne prends pas de décision ce matin. Ben là, tu viens de faire le choix pour les ténèbres. Puis si tu pars d'ici, tu meurs, tu es séparé de Dieu, puis tu vas les avoir, les ténèbres, pour l'éternité, dans la souffrance. Ouais, peut-être tu te dis, ouais, je comprends tout, ça. Arrête, je te demande juste une chose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? J'ai tout compris. J'ai compris que j'étais un pécheur. J'ai compris que j'étais perdu. J'ai compris que Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour me donner la vie. Pour me donner une vie éternelle avec lui, parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Serge? Ben, il y a quelqu'un à côté de vous. Prenez Romains 9, 10. Romains 10, c'est-à-dire. Vous savez, ces paroles-là ne viennent pas d'un individu ou des individus. Cette parole-là vient de la parole de Dieu, le message que Dieu nous a livré il y a 2000 ans, et on a encore ce message ce matin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Dis-moi-le! Jésus, dis-moi-le! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Trois choses. Romains 10, 9, 10. On va le lire 9, 10, 11, 12, 13. OK? Vous êtes patient un petit peu encore? On va lire ça. Trois choses, trois conditionnels. Regardez bien les conditionnels. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, dans ta tête, des choses que tu sais depuis ton enfance, que Jésus est venu puis il est mort pour tout le monde. Non, non, non. Si tu crois ça, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, belle promesse. Peut-être tu vas te sauver, peut-être pas, si tu fais ci, tu fais ça. Non, non, il dit, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, la parole de Dieu, Dieu lui-même. Puis il dit, on continue, moi je vire la page. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Peu importe le temps, peu importe la période, peu importe ton âge, si tu crois en Jésus, il n'y aura pas de confusion. Vous vous rappelez là, son beau sourire le lendemain, la joie qu'elle avait là? Aucune confusion. Elle avait la paix maintenant avec Dieu. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Conditionnel encore, il faut l'invoquer. Verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Trois choses, confesser son péché. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais ce matin, Seigneur, que j'ai essayé par toute ma vie, j'ai essayé par plusieurs choses à me gagner le ciel, à aller au ciel. Mais je m'aperçois que c'est toi. C'est toi qui es le chemin, comme on l'a entendu tantôt, comme la parole de Dieu dit. Seigneur, je crois de tout mon cœur. Je crois que tu as quitté ton trône, tu as quitté ta loi, tu es venu ici, tu es mort à la croix du calvaire pour mes péchés. J'avais besoin de satisfaire la justice de Dieu, parce que j'étais reconnu coupable. Et le seul moyen de satisfaire la justice de Dieu, ça prenait un substitut. Puis c'est lui-même qui l'a choisi, là, il a donné son fils Jésus-Christ. Puis toute la colère qui devait tomber sur moi, elle est tombée sur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est d'invoquer le nom du Seigneur, c'est de lui remettre mes péchés, de dire, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés, je te donne mes péchés, tu es mort pour eux, donne-moi ton don de la vie éternelle. Purifie mon cœur afin que je satisfasse la justice de Dieu. Reconnu non coupable. Je crois, je confesse et je suis reconnu non coupable. Veux-tu le faire? Veux-tu connaître la paix que Jésus-Christ seul peut donner? Tu peux sortir d'ici ce matin en disant, si quelqu'un te pose la question, es-tu sauvé? Oui, je suis sauvé. Tu peux même lui dire la date. J'ai été sauvé à 11h05, le 10 avril 2010. J'ai dit oui au Seigneur. Je l'ai invoqué. Je lui ai demandé. Invoquer, ça veut dire s'adresser à Jésus. Je vais vous donner une occasion. Si vous voulez vous courber vos têtes, fermer vos yeux, je vais vous donner une occasion de le faire. Tout simplement en disant ces paroles. Faites-la votre ces paroles-là. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, je crois ça du plus profond de mon cœur, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mon indifférence envers toi. Pardonne-moi même, Seigneur, d'avoir été touché des fois puis d'avoir dit non à ton appel. Seigneur, je t'appelle ce matin, je t'invoque. Pardonne mes péchés. Je te demande, Seigneur, d'être mon sauveur personnel, de sauver mon âme. Oh oui, Seigneur, sauve mon âme. Merci pour les gens qui m'ont emmené ici, Seigneur, et sauve-moi. Donne-moi ton don de la vie éternelle. Puis, Seigneur, aide-moi dès maintenant à ne vivre que pour toi. Je te le demande en ton nom. Amen. Restez courbés. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle ce matin qui a fait cette prière-là, eh bien, vous êtes sauvés. Pas parce que je vous le dis, mais basé sur les Écritures. Le Seigneur dit dans sa parole, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Seigneur notre Dieu, merci encore pour... merci pour cet avant-midi que nous avons passé. Merci de ce qu'un jour tu m'as visité personnellement, moi aussi, et que j'ai pu dire oui, oui à ton amour. Et depuis ce temps, Seigneur, une relation d'amour avec toi, ta fidélité envers moi, ce bonheur que tu as mis dans mon cœur, que tu as mis dans le cœur de tous ces gens qui ont dit oui à cet appel. Et nous savons que ce bonheur aussi, Seigneur, va aller jusque dans l'éternité avec toi. Merci encore pour ce temps merveilleux. Et Seigneur, s'il y a des personnes ici ce matin qui ont fait cette prière, Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent le dire à ceux avec qui ils sont accompagnés, Seigneur notre Dieu, qu'ils ne s'en gênent pas, comme Gisèle disait. Le lendemain, Seigneur, dans son sourire, elle disait qu'elle était sauvée, qu'elle avait Jésus-Christ en elle, qu'elle vivait une relation d'amour avec elle et que sa vie avait changé. Seigneur, que d'aucun d'entre nous qui sommes ici, Seigneur, n'ait point honte de toi. Et encore une fois, Seigneur, nous voulons te glorifier dans chacune de nos vies et bénis le restant de cette journée parce qu'on te le demande en ton nom, encore une fois. Amen. La semaine, je ne sais pas c'est quand le prochain déjeuner. Le 8 mai. Donc, le 8 mai, on vous attend encore. Puis, bonne journée à vous.